Richard Weiss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe GTI, vous êtes spécialiste du financement des entreprises. Alors, dans le contexte actuel, hein, on imagine que ces questions-là, on en parle effectivement de plus en plus, comment notamment les PME, mais pas seulement, les groupes arrivent à se refinancer sur, j'irais, alors, sur les marchés. Il y en a qui le font sur les marchés, il y en a qui le font donc avec des banques. Mais c'est une question clé dans cette crise économique. Quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui? Il y a de vrais problèmes de financement d'entreprises?
Alors, la question est extrêmement compliquée et la réponse n'est sans doute pas claire. Quand on regarde les statistiques et quand on parle aux autorités de tutelle, les chiffres montrent une croissance des encours de crédit en France, qui semble être d'ailleurs le seul pays européen où les encours croissent, d'environ 3% cette année. Et quand on parle aux entreprises, toutes se plaignent de ce qu'elles rencontrent des difficultés croissantes à se financer. Et jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas à comprendre les raisons de cette incohérence. Peut-être l'une des raisons possibles est que les segments à qui nous parlons, qui sont plutôt les entreprises de taille moyenne ou faible, rencontrent, elles, des difficultés, alors que les grandes entreprises se financent un peu plus facilement. Mais l'existence ou non de la difficulté est très difficile, en réalité, à cerner.
Alors, on sait que les entreprises, notamment en Europe, le financement se fait par les banques, hein, principalement, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit que les banques ont de plus en plus de nouvelles règles, nouvelles normes, avec toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place. Comment on ne va pas pouvoir basculer d'un jour à l'autre, je dirais, de ce financement bancaire européen, français, européen, à un autre financement, celui qu'on trouve notamment aux États-Unis?
Alors, il est vrai que la France et l'Europe ont une situation particulière de financement où la banque réalise environ 80% du financement de l'économie, alors qu'aux États-Unis, elle ne réalise que 20 à 30%. Et le développement des contraintes prudentielles sont telles que les banques ne peuvent plus avoir le même développement de leur financement aux entreprises. Alors, comment faire? La difficulté vient de ce que tous les acteurs économiques ayant des réserves à financer, se trouvent de plus en plus contraints. Les acteurs, c'est qui? Les banques, c'est les assureurs et les fonds de retraite. Alors en France, nous savons qu'il y a très peu de fonds de retraite, donc regardons les assureurs. Les assureurs sont aujourd'hui soumis à des règles qu'en fait ils ne connaissent même pas, puisque les règles définitives de Solvency II ne sont pas établies, non plus que le calendrier de mise en place. Alors quelle est la situation brièvement? On a un acteur, un groupe d'acteurs qui faisait le financement, qui sont les banques, qui ne peuvent plus le faire. On a d'autres qui pourraient le faire à leur place, qui serait d'ailleurs plus logique puisqu'elles ont des engagements à long terme, qui sont les assureurs, et ces autres acteurs ne peuvent pas non plus le faire. En plus de ça, le moyen par lequel le crédit est distribué hors du système bancaire est en France extrêmement restreint et a été traîné dans la boue récemment à cause des problèmes qu'il a créés. Et donc, il faut absolument débloquer cette situation, ou bien relâcher les contraintes sur les banques, ce qui pourrait être contestable compte tenu de la nécessité de protéger les déposants et les dépôts, ou bien alléger les contraintes sur les assureurs, ou bien mettre en place un système qui permet un refinancement hors du système bancaire.
Alors là, on parle de. Alors, les anglo-saxons parlent du shadow banking, finance de l'ombre, et certains traduisent positivement en disant finance parallèle. On se souvient de ce qui s'est passé dans les années, bien sûr, qui sont proches, hein, les années 2007-2008, avec la crise des subprimes. On a souvent mis en cause cette finance parallèle.
Alors, effectivement, le terme finance dite parallèle finance de l'ombre, le terme finance de l'ombre est un petit peu péjoratif, mais il faut faire face aux réalités. La finance parallèle est un outil extrêmement puissant, et un outil puissant qui a été mis dans les mains de un peu n'importe qui. C'est comme si vous mettez une Ferrari dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire, il aura un accident, c'est ce qui s'est passé. Donc la finance alternative n'est pas nécessairement un mauvais instrument en soi, c'est un instrument qui, mis dans de mauvaises mains et mal utilisé, devient dangereux. La difficulté est que dans notre pays, presque partout, on n'a pas distingué ces utilisations de l'outil. Autrement dit, par exemple, vous savez que la titrisation, qui est un de nos outils préférés pour ne pas passer par le système bancaire, la titrisation couvre un éventail d'activités extrêmement variées qui va depuis un refinancement normal de créances économiques, on refinance des prêts immobiliers de première main, on refinance des prêts, des créances commerciales, des prêts voitures qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas de pertes, qui sont assez bien structurés, et en même temps, on fait des espèces de cuisines explosives dont personne ne sait comment cela se comporte. Il faudrait que l'on réussisse à segmenter les opérations de ce type en disant il y en a certaines qui sont, entre guillemets, bien, et il faut qu'on leur donne une dénomination particulière dans un cadre législatif adapté, nouveau, ce qui n'est pas le cas en France. Et les autres, bon, si les gens veulent jouer avec les explosifs, c'est leur droit, il ne faut pas les contraindre non plus.
Et on en est où justement dans ce segment de la titrisation? Est-ce qu'après la crise, où elle a été un peu jetée effectivement très très loin, on a remis ça de côté, on a dit plus de titrisation, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un marché de la titrisation? Est-ce qu'il est revenu? Vous-même, vous avez fait des opérations il y a quelques années avec un groupe comme Alstom par exemple. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont revenus à cette pratique?
Nous avons toujours fait des opérations qui sont très conservatrices et relativement simples et qui apportent du financement à des acteurs économiques. Alors, il y a toujours des opérations de titrisation. Il n'y a malheureusement pas de marché d'opérations de titrisation. C'est-à-dire que, notamment, les grands établissements bancaires réalisent des opérations de titrisation à but interne, ce qui leur permet de se refinancer auprès de la BCE. Mais le terme a été extrêmement galvaudé. Et il est très difficile aujourd'hui d'aller voir un investisseur institutionnel en lui parlant de titrisation, tout simplement pour des raisons de sémantique. Il ne va même pas au-delà du mot, le produit ne passe pas. C'est cette situation qu'il faut combattre. Il faut remettre la titrisation, ou une version peut-être un peu moins extensive de la titrisation, au goût du jour. D'ailleurs, certaines voix se font maintenant entendre en disant qu'il faut relancer un processus de financement de l'économie hors système bancaire.
Avec une régulation, donc on voit que le G20 s'est emparé de ces sujets-là, mais pour l'instant on n'a pas d'éléments encore concrets, mais avec une régulation, c'est-à-dire que des acteurs régulés qui sont certes pas des acteurs bancaires, mais qui ont une certaine régulation différente, forcément.
Il faut, à minimum, une certaine surveillance. Il faut faire attention aussi aux extrémismes de tous bords. C'est-à-dire que on entend quelques idées émises comme quoi il faut tout remettre sur le bilan des banques et que il faut faire la lumière sur la finance de l'ombre, ce qui est un peu une contradiction avec la volonté de favoriser le développement et le financement de l'économie.
On a tiré les leçons, peut-être en conclusion, de cette crise subprime, crise financière, crise économique, avec les excès qu'on a pu voir dans des produits dont on ne connaissait pas les enjeux, ou en tout cas la totalité des risques.
Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment tiré les leçons avec calme et pondération. C'est-à-dire que la crise subprime est arrivée après que nous ayons des investisseurs qui achètent du produit à 7 points de base, ou d'autres qui achètent un produit semblable à 250 points de base sans se poser de questions. Maintenant, plus personne n'achète vraiment rien. Et je pense que la leçon sera véritablement tirée quand on trouvera un équilibre entre un couple risque-rendement raisonnable et que les gens sauront ce qu'ils achètent avec quel risque. Ça ne semble pas être encore le cas.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Richard Weiss. On rappelle que vous êtes donc le président du groupe GTI.
Je vous remercie.